Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Place de la République, vous vous en souvenez peut-être, c'est une série des pieds sur terre qui parle de la façon dont la République fonctionne ou pas dans les institutions, les services publics, dans la rue et dans tous les lieux où la République s'exprime. Dans ces espaces sortis de la sphère privée, où nous sommes des citoyens, des contribuables, des justiciables, parfois des manifestants et de temps en temps de précieux électeurs, soudain devenus passionnants. Une nouvelle saison de Place de la République où on commence par aller à la rencontre de protestataires qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre, les professions libérales, oui, elles aussi ont des choses à nous dire. Nous sommes le 16 septembre, lundi dernier, Place de la Nation, lancée par le collectif SOS Retraite qui s'insurge contre le nouveau système de retraite voulu par le gouvernement. Environ 20 000 personnes sont dans la rue. Parmi les 14 professions libérales représentées, des médecins, des orthophonistes, des kinés, des pilotes, des hôtesses de l'air, des stewards, les avocats sont en première ligne avec 160 barreaux en grève sur les 164 que compte la France, c'est-à-dire beaucoup. C'est à eux que nous nous sommes intéressés en particulier. C'est un défilé chic et sobre, des robes noires, des uniformes à grades bleu nuit, des talons, pas beaucoup de fumigène, des tambours et de belles compositions chantées. On les écoute et on apprend, comme souvent, qu'ils ne sont pas du tout ce que l'on croit. Après quoi, on partira faire un tour à Levallois-Perret, découvrir le livre d'or de soutien à Patrick Balkany, ceux qui l'ont signé et les autres. Balkany et après, ce sera la seconde partie de cette nouvelle saison. Place de la République, c'est reparti. Valérie Borst, Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors moi, je suis avocat à Valenciennes depuis 1991. Je fête ma 30e année de barreau. Je manifeste pour la sauvegarde du régime autonome de la retraite des avocats. Depuis 1945, on nous a prié de se débrouiller en matière de retraite. Et donc, notre régime autonome fonctionne bien, tellement bien que les retraites sont réglées de manière autonome sans coûter un centime à l'État. Et nous reversons chaque année à peu près 100 millions d'euros au régime général par solidarité. Et donc, nous manifestons pour garder ce régime autonome qui marche bien, qui ne dépend absolument pas de l'État, et qui a des réserves extrêmement importantes qui assurent la retraite des avocats pour des générations et des générations. Pourquoi casser ce qui marche? On ne comprend pas. Il faut savoir que le revenu médian des avocats, c'est 40 000 euros. 40 000 euros avant l'application des cotisations retraite. Donc ça veut dire que les jeunes avocats qui commencent aujourd'hui ne roulent pas sur l'or. Et si on double les cotisations comme le projet le prévoit, on va entraîner une paupérisation de la profession et une disparition d'énormément de jeunes avocats qui n'auront plus les moyens d'exercer. Voilà. Ça commence. Ça commence. On va à Nation. Et à Nation, dispersion. Et on rentre tranquillement chez nous, dans la paix, le calme et la sérénité.
Je m'appelle Rémi Cabane, j'exerce à Toulouse depuis 23 ans. Je repars ce soir. J'exerce tout seul, je n'ai ni collaborateur ni secrétaire. Je n'ai de rapport qu'avec mes clients. Et si la réforme passe, j'aurai un doublement des cotisations qui fera que j'aurai plus de difficultés à travailler avec mes clients. Ou alors il faudra que j'augmente mes honoraires et mes clients ne suivront pas. Nous ne causons de tort à personne. Nous avons 4 actifs pour un inactif. Parce que les avocats qui prennent leur retraite la prennent très tard. Parce qu'ils commencent à travailler tard, ce qui est normal. Mais pour le coup, il y en a très peu qui la prennent parce que les conditions font qu'il y en a beaucoup qui décèdent avant de prendre la retraite. Moi qui ai commencé relativement tôt aujourd'hui, c'est-à-dire à 26 ans, je prendrai ma retraite à 69-70 ans, ce qui est normal, logique en termes de trimestres cotisés. Mais on veut simplement avoir une retraite décente.
Vous gagnez combien?
L'an passé a été ma meilleure année, 2500 euros par mois, ça fait 23 ans que j'exerce. Je ne me plains pas, mais je ne veux pas qu'on me prenne ce pour quoi j'ai cotisé depuis 23 ans.
Je suis venu à peu près du boulevard Haussmann. J'ai emmené tous mes confrères en voiture. J'ai la médaille de 50 ans d'exercice professionnel.
Et vous avez déjà manifesté ?
C'est la première fois, madame. C'est la première fois et je me suis dit que cette fois-ci, il fallait y aller parce que trop, c'est trop. Et je ne suis pas du tout contre M. Macron, notre président, mais il faut qu'il soit informé réellement et nous sommes à ses côtés pour l'aider et surtout pas pour manifester, avoir des slogans qui peuvent être contre le gouvernement. Et je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais il faut défendre tout simplement ses caisses de retraite et sa caisse pour les avocats, la Caisse nationale des barreaux français. Je suis un retraité actif, ma chère.
Moi, je suis avocat au barreau de Beauvais depuis 10 ans. Donc j'ai encore quelques années à faire dans cette profession que j'adore au demeurant. Born and raised in Beauvais. Ouais, voilà, donc je suis très bien dans mon barreau. Parce qu'il y a beaucoup de contentieux agricoles, on est en Picardie, donc il y a quand même pas mal d'agriculteurs. Donc voilà, des familles d'agriculteurs, des successions agricoles, etc. Voilà, on a un peu une clientèle éclectique. Le droit de la famille, ça touche tout le monde, hein. Divorcer, ça touche n'importe qui. Voilà. Là, avec la réforme qui est envisagée, vous avez ici beaucoup de barreaux, des petits barreaux. Tous les avocats ne gagnent pas des milliers d'euros par mois. C'est une fausse idée de dire ça, surtout parmi les jeunes. Il faut savoir que pour les avocats, c'est à peu près 60% de charges sur l'ensemble de nos revenus. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ça nous paraissait important de venir sur nos heures de travail. Pendant qu'on est ici, on n'est pas en train de travailler. Tous nos dossiers aujourd'hui ont été renvoyés d'autorité devant le tribunal de Beauvais. C'est une décision des membres du barreau, par solidarité avec ce mouvement. Nos secrétaires ne prennent pas de téléphone aujourd'hui. On a affiché un message au cabinet pour que les gens soient informés que cette réforme est en train d'être discutée et que nous, on la combat vivement. Moi, je tiens à mon métier, je tiens à mes dossiers. Je tiens à la liberté aussi que m'apporte ce métier, c'est-à-dire qu'on est une profession libérale. Pour moi, c'est un statut qui m'est cher. On a des semaines assez longues, on n'a pas d'heures pour intervenir. Voilà, on est souvent les premiers parents et les derniers parents à amener les enfants et les récupérer à l'école et qu'on s'investit beaucoup pour nos clients. Contrairement, je pense peut-être à une idée reçue, on n'a pas tous des dossiers médiatiques, on n'a pas tous des clients qui peuvent payer les honoraires. Nous, à Beauvais, on intervient à l'aide juridictionnelle sans aucune difficulté. Et la commission d'office, c'est pareil. Et on travaille aussi sérieusement que pour les dossiers payants. Voilà. Donc quand vous entendez « t'as pas d'argent, t'as l'avocat commis d'office », ça aussi, ça fait partie des choses qui sont un peu difficiles à entendre pour les avocats. Parce que les avocats commis d'office sont des avocats volontaires pour le faire et qui prennent sur leur week-end, sur leur nuit et qui se forment pour ce contentieux. Il y a des confrères qui aiment ces interventions en urgence. Ça fait partie des fausses images qu'on a de la profession.
Moi, j'ai 41 ans. Je suis avocat depuis 13 ans. Et alors que je fais ce métier depuis toujours et que j'ai jamais voulu faire autre chose, c'est la première fois que je me dis que peut-être qu'il faudrait que je songe à faire autre chose parce que je suis pas sûre d'y arriver, en fait, de tenir. Parce qu'on ne pourra pas payer, concrètement. Bien sûr que c'est normal de payer des cotisations de retraite, bien sûr. Mais là, on va doubler nos cotisations et sur un cabinet individuel où même les cabinets qui ont des petites structures avec des secrétaires ou des collaborateurs, il y a des cabinets qui n'y arriveront pas, en fait. Ça va être nous, sur le barreau, on est très inquiets parce qu'on pense vraiment que ça va fermer beaucoup de cabinets. On ne tiendra pas le choc. On est vraiment très inquiets pour notre avenir. L'avenir des avocats, c'est aussi l'avenir des justiciables. C'est l'avenir des gens qui ne pourront plus forcément faire appel aux avocats de terrain, de proximité. Voilà, ça veut dire aussi que demain, pour pouvoir avoir un avocat, il faudra avoir les moyens d'avoir un avocat. On a de tout, on a des clients qui nous payent nos honoraires et on a aussi des aides juridictionnelles. Donc l'aide juridictionnelle, c'est ça, c'est l'État qui indemnise les missions des avocats qui défendent des gens qui ne pourraient pas avoir accès à la justice sans cette aide. Des gens en comparution immédiate qui se font juger après 48 heures de garde à vue, ça peut être de défendre une femme victime de violences conjugales qui doit comparaître en tant que victime pour expliquer ce qu'elle subit et qui n'a pas les moyens de payer un avocat et qui demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Et tous ces gens-là, un jour, risquent de ne plus pouvoir avoir accès à la justice avec un grand J.
Moi, j'ai calculé ma retraite. Je travaille depuis l'âge de 17 ans. Si je m'arrête à 65 ans, je toucherai exactement 1 450 € de retraite, tout régime confondu. Avec la réforme de Macron, ce sera encore moins. Je veux bien travailler 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais au bout d'un moment, je voudrais juste vivre correctement parce que j'ai donné à la société. Les avocats qui participent à l'aide juridictionnelle participent au service public. Donc je vous donne un exemple. Quand on intervient en garde à vue, peu importe le nombre d'heures qu'on va passer entre l'entretien, les auditions, les deuxièmes auditions, les confrontations, on gagne 300 € hors taxe. Sur ces 300, vous reversez encore 40% à l'État. Et vous êtes payé environ au bout de 7-8 mois. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Quand vous allez faire un tribunal correctionnel, vous allez gagner 260 € pour l'étude du dossier, la représentation devant le juge, le suivi du dossier, c'est 260 € hors taxe. On enlève encore 40%. Si vous prenez le taux horaire d'un avocat, aujourd'hui, on ne peut pas nous cataloguer de nantis. C'est faux. Moi, aujourd'hui, je me verse 2 000 € par mois. Il y a 10 ans en arrière, j'étais à 1 200. Aujourd'hui, je suis à 2 000 €. Moi, je ne peux pas partir tous les week-ends aux Bahamas. Je ne peux pas aller chez Louboutin m'acheter un sac comme ça me chante. Ce n'est pas possible. On a les mêmes problèmes que tous les Français. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est pas parce qu'on porte une robe, c'est pas parce qu'on va dans les palais qu'on a la vie rêvée. On n'a pas de prince qui nous attend au palais. On a des problèmes, ça, on en a beaucoup. Les clients, je vais vous prendre un salarié, chaque mois il a sa paye qui tombe. Moi c'est au bon vouloir de mon client. Quand mon client me dit « Maître, je ne peux pas payer, est-ce que je peux vous le faire en 10 fois sans frais ?» Bah oui, on le fait en 10 fois. Sauf qu'au lieu de gagner 1 500 € en une fois, je vais gagner 150 € sur 10 mois. Donc derrière, moi j'ai toutes mes charges. Et aujourd'hui, il faut que je facture 7 000 € par mois pour pouvoir me verser mes 2 000 €. Si je ne facture pas ces 7 000 €, je ne peux plus payer mon loyer. Donc au bout d'un moment, on vit en fait avec les découverts autorisés que nous accordent les banques. Ah ben moi là où je vous montre mon compte, je suis à moins 3 000. Hein. Non. Ah bah si, je suis à moins 3 000 parce que j'ai des clients qui ne m'ont pas encore payé.
La morale de cette histoire, la retraite. La morale de cette histoire, c'est qu'on n'est pas des pigeons.
Les salariés aujourd'hui, eux, ils cotisent pour moitié. Les patrons prennent en charge la moitié. Nous, on prend 100%. Moi, quand je paye ma cotisation, je la paye à 100%. Mais au bout d'un moment, si demain je passe de 3 000 à 11 000 euros de cotisation, ça représente 10 procédures devant une juridiction. 10 procédures, ça veut dire 10 nouveaux clients. Et quand on est un petit cabinet, vous ne trouvez pas 10 clients comme ça. Donc au bout d'un moment, je pense que Macron, il est complètement déconnecté. Il faut qu'il prenne conscience que les libéraux font la richesse de ce pays. Arrêtez de venir ponctionner ceux qui bossent 70, 80 heures. Nous, on n'a pas de vacances. Je veux dire, on n'a pas de chômage. On n'a pas de ticket resto. On n'a pas de chèque vacances. On n'a rien de tout ça. Nous, on ne tombe pas malade. Parce que si on est malade, demain, on ferme le cabinet parce que les clients, ils s'en vont. Il y a des consoeurs qui ne prennent même pas leurs 4 mois de congé maternité parce que comme elles sont toutes seules, il faut que leur cabinet, il tourne. Nous, au bout d'un moment, on ne pourra plus vivre. On va survivre et puis on va tous se mettre en liquidation judiciaire et finalement, on ne payera plus nos créances et finalement, ce sera la mort des cabinets. Aujourd'hui, il manque du fric en France. Et ben, ce n'est pas en allant taper sur les libéraux qu'on va aller récupérer du fric. Laissez-nous tranquille. Point.
France Culture, les pieds sur terre. Place de la République, deuxième partie après la manif des libéraux, direction Levallois-Perret, à la rencontre des habitants et électeurs de Patrick Balkany, le maire de cette commune d'Île-de-France, qui, je le rappelle, a été condamné le 13 septembre 2019 en appel pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Il a été incarcéré à la prison de la Santé.
Ici, on est devant la mairie, dans les jardins. Il y a un livre d'or qui est installé à l'intérieur maintenant de la mairie que les gens peuvent venir signer encore. Et marquer « Je soutiens la famille Balkany », voilà. Parce qu'il mérite. On est d'accord qu'il a fait des magouilles. On sait que des années, M. Balkany, il a fraudé la fraude fiscale. Donc tout le monde le savait à Levallois. Comme il y a eu pire que lui, donc on lui pardonne. Voilà, mais simplement, sa peine, je trouve qu'elle est un peu sévère. Monsieur Balkany, je le connais, bon, il vient souvent aux cérémonies, aux anciens combattants. Et une fois par mois, moi, je vais danser avec les anciens. Donc on mange le midi et puis on fait balmusette. Et donc Balkany vient nous voir, il nous serre la main, il se promène, il va au marché. Il serre la main à tout le monde, donc c'est un vrai maire. Hein. Il s'occupe bien de la population de Levallois. Comment voulez-vous pas aimer un maire comme ça? Il est sympa avec tout le monde. Une fois dans l'année, par exemple, on doit choisir entre trois spectacles, le bateau mouche, on dîne, on danse, et soit on va au cirque d'hiver aussi, soit une pièce de théâtre. Donc on a le choix de trois sorties. C'est un cadeau pour les anciens, à partir de 65 ans. Bon, ça coûte cher, évidemment. Pour ça que Levallois est très en déficit. C'est la commune la plus endettée de France. Hein, il a fait construire une nouvelle piscine, on est très bien. Donc voilà, c'est pas donné, ça coûte cher. Donc il a fait des emprunts, donc, voilà. Mais à part ça, c'est une ville très bien. Il y a plein de jardins, il y a plein de salles de sport. On a tout ce qu'il faut. C'est une ville tranquille, calme. Donc il y a des caméras partout, on se sent en sécurité, on vit très bien Levallois.
Je trouve ça bête d'aller faire la queue pour aller signer un livre de soutien. Est-ce que c'est vraiment important ? Dans le monde d'aujourd'hui, de soutenir quelqu'un qui s'en est mis plein les poches. Franchement, il n'y a pas autre chose à faire que d'aller signer un livre d'or pour soutenir la famille Balkany. Non mais je rêve.
Pour moi, je suis absolument ravie. Parce que j'estime qu'à un moment donné, on a beau être un bon maire, parce que c'est vrai que c'est un bon maire qui a fait de Levallois une ville agréable à vivre, mais rien ne justifie d'être corrompu, d'être un bandit. Voilà. Donc il faut payer à un moment donné, et c'est bien qu'il paye. Bon, peut-être qu'à 70 ans, faire de la prison, c'est peut-être un peu trop, mais peu importe. Ça lui fait les pieds. Ce qui ne m'étonne pas, c'est qu'il y ait un comité de soutien. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont prêts à voter, même pour des voleurs, des despotes. Bon. Je suis pas du tout sûre d'ailleurs que s'il a la possibilité de se représenter, il soit pas élu comme d'habitude au premier tour. Ce que vous voulez, il fait du clientélisme depuis 30 ans. Donc il offre des cadeaux aux petits vieux. Moi je reçois deux fois par an les vœux et l'amitié du maire, dont je n'ai pas grand chose à faire, et la possibilité d'aller chercher un cadeau que je ne vais évidemment jamais chercher, parce qu'il faut être cohérent avec ses opinions. Mais voilà, il embrasse les petites vieilles dans la rue, il serre la main à ceux qui veulent bien lui serrer la main. Bon, c'est vrai que ça fait partie aussi de ses personnalités, ses grandes gueules. Les gens aiment bien les grandes gueules. J'ai songé à militer, mais que vous voulez, ils ont tellement détenu pendant tout ce temps LR, Balkany, tous les pouvoirs, que c'est un peu peine perdue, quoi. J'ai porté à un certain moment des espoirs sur La République En Marche. Bon, On va passer à autre chose. Non, aujourd'hui, si je devais m'impliquer, c'est chez les Verts, mais... Bon, je ne pense pas malheureusement qu'à Levallois, ce soit un parti qui ait beaucoup d'avenir. Je ne sais même pas s'ils sont représentés véritablement au conseil municipal.
Je m'appelle Monsieur Yasser, environ 70 ans. Ça fait 18 ans que j'habite dans une chambre de l'hôtel. Ça fait 18 ans que je fais une demande de logement, je l'attends toujours. Il n'y a aucun moyen pour avoir un logement. On habite dans un hôtel acheté par la mairie. 9 mètres carrés de la chambre avec lavabo, le toilette extérieure, la douche extérieure, et plein de saleté, il n'y a pas de nettoyage, plein de cafards, du souris, des rats, la saleté, ça sent mauvais. C'est catastrophe. En plus de ça, il y a un problème d'électricité. Quand ça coupe, on reste 2 jours sans électricité. On reste dans l'eau noire. J'avais mes enfants et 9 mètres carrés, c'est trop petit. Il ne peut pas l'emmener à l'hôtel. En plus, c'est sale. J'avais peur qu'il prenne des maladies. Toujours. Il voulait qu'il vienne chez moi, mais je ne peux pas l'emmener chez moi. On paye le loyer 480 euros pour une chambre pourrie.
À qui vous payez un loyer?
Bah, la mairie, là. C'est un bureau de la mairie pour encaisser. J'ai une ressource de 900 euros de retraite. Ben, il ne me reste pas grand-chose pour finir le mois. J'écris un peu partout. Ben, il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de moyen. On est abandonné, c'est tout, par tout le monde. En plus, jamais il m'a invité, jamais j'ai le contraire en plus.
Vous dites que jamais il vous a invité à la mairie, M. Balkany, comme les autres.
Non, jamais de la vie, jamais. Personne qui le vient.
Personne vient voir.
Le maire, il ne l'a jamais venu. Ni lui, ni sa femme. Je me sens vraiment oublié. Voilà.
Je suis Sébastien Blanc. J'ai 39 ans. J'habite Levallois depuis 39 ans maintenant, comme mes grands-parents, mes parents et mes deux enfants. Je suis arrivé à la mairie de Levallois-Perret comme animateur en 98-99, où j'ai travaillé au service enfance avant d'intégrer le service communication de la mairie de Levallois. Et puis en 2007, le maire avait décidé de réorienter la politique sportive, avec pour ambition de faire du Levallois Sporting Club le plus grand club omnisport de France et d'y donner une vraie direction avec un directeur général et une partie communication dont j'avais les responsabilités et la charge. Ce qui m'a permis de côtoyer, de rencontrer Patrick et Isabelle Balkany dans un cadre professionnel. On est post-2008, où on a une crise internationale économique, où les collectivités en pâtissent, le Levallois Sporting Club en pâtit forcément, et on a des restrictions budgétaires qui sont légitimes et entendables. Donc on a des coupes à réaliser et à proposer. Donc on a fait ces propositions. Suite à quoi j'ai été convoqué pour me dire que j'outrepassais mes fonctions lorsque je faisais des propositions. J'ai reçu un blâme professionnel. Alors je me suis posé beaucoup de questions, ça faisait 3 ans que j'y étais, et je me suis posé la question de savoir ce que j'avais à faire lorsque vous devez vous demander des efforts à des fonctionnaires de catégorie C qui gagnent entre 1300 et 1500 à 1600 euros net par mois, et lorsque vous refusez le paiement des heures supplémentaires pour ces fonctionnaires et qu'on leur donne une compensation qui est de l'ordre des jours de récupération ou de congé, c'est pas ce que les gens souhaitent. Un fonctionnaire qui a des revenus de 1300 euros, quand il travaille un week-end, c'est pour avoir 100-150 euros de plus et pas pour avoir des jours de congé en plus dont il ne fera rien. Et qu'on voit qu'à côté de ça, il y a un gaspillage financier, on se dit que c'est pas forcément notre place. J'ai donc sollicité le président du club, qui était Jean-Pierre Aubry à cette époque, pour mettre un terme à mon contrat et trouver un accord sur la base d'une rupture conventionnelle. Donc je me suis retrouvé face au président du Levallois Sporting Club, Jean-Pierre Aubry, et on m'accuse d'avoir financé et récupéré des fonds destinés à une campagne électorale de la candidate aux élections départementales de 2011 et de les avoir récupérés à des fins personnelles. Première chose, il n'y a pas de témoin. Deuxième chose, il n'y a pas de plainte. La société qui qui est censé avoir été victime, escroqué, n'a jamais déposé plainte. La candidate qui aurait pu pâtir de cette situation n'a jamais porté plainte. Il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de condamnation. C'est la parole du clan Balkany contre la mienne. Donc je suis un peu seul à cette époque et je dois reconnaître que je n'ai pas d'autre choix. J'ai refusé la démission parce qu'elle n'était pas dans mon intérêt, mais j'ai été effectivement licencié là-dessus. Et comme le Valois est un village, vous vous retrouvez un petit peu stigmatisé à un moment donné et pointé du doigt. C'est-à-dire que vous avez des regards, des gens qui vous disent plus forcément bonjour. Vous savez, la problématique pendant des années à le Valois avec les époux Balkany est que on est avec eux ou alors on est contre eux. Et si on n'est pas d'accord avec eux, on fait partie d'une opposition, systématiquement. Et si vous êtes un opposant, vous n'avez droit à rien. Et s'installe un rapport de force permanent, et dont beaucoup d'anciens opposants ont fait les frais. C'est une vraie machine en face.
Sincèrement, la condamnation du maire est abusive parce que bon, c'est un très bon maire, même s'il a des casseroles derrière ses fesses, ça ne regarde pas et franchement, je crois que c'est plutôt une chasse aux sorcières qu'on est actuellement en train de faire. Quoi. Donc après, Balkany c'est Balkany, il a fait qu'il ne ferait pas à sa place. On l'a trop un peu trop guillotiné vite, quoi. Chez Balkany, on se croise, on l'appelle tous Patrick. Hein. Patrick ou Patou, moi je l'appelle, mais bon, c'est quelqu'un de social et qui est là et qui est à l'écoute. Qui sait ce qu'il fait et qui le fait bien, avec sa femme. Mais sa femme a pris le relais pour l'instant et continuera à faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont investis dans cette ville, donc c'est un peu comme un patriarche de la famille, quoi. Qui veut que tous ses enfants soient bien, les petits-enfants et tout. Donc ils font tout pour, quoi. On espère tous qu'ils reviennent, c'est tout. Enfin, je pense que...
Il est condamné quand même à 15 ans d'inéligibilité.
Ouais, mais je pense qu'il sera élu quand même. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre et qui, lui, gérera tout ça derrière.
C'était Place de la République, une nouvelle saison qui s'ouvrait avec la grève des avocats et le livre d'or en soutien à Patrick Balkany. Reportage Valérie Borst et Émilie Chaudet, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Sébastien Blanc, de l'Association des contribuables de Levallois, à Didier, à Yasser, à Antonino et à Sylvie, ainsi qu'à Chloé. C'est Mélissa Foust, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.